d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres d'Attaque.
Et nous recevons Annick Flageolet du collectif La Santé n'est pas une marchandise, qui va nous expliquer les dérives qui mettent à mal notre service de santé. Mais on commence, comme d'habitude, par les chroniques d'actualité, et Jean-Marc va nous faire souhaiter un bel anniversaire. Allez tous en cœur.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Eh oui, 3 ans déjà oublié le petit dernier accident nucléaire. À peine 3 ans et tout le monde s'en fout Fukushima. Alors, comme d'habitude, en attendant la prochaine catastrophe nucléaire, on continue à réparer des centrales qui fuient, à en construire l'EPR qui ne sera jamais terminé mais qui coûte 20 milliards par an. Allons-y.
Et on continue avec l'actualité brûlante car Jean-Marc veut nous parler des élections.
Ouais, alors c'est les élections, on n'a pas le droit de parler des élections, à moins de donner la parole à toutes les listes. Et sur Fréquence Paris Pluriel, c'est un peu compliqué vu le nombre d'émissions, et c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément envie de voir tout le monde dans les studios. Alors je vais vous parler quand même des élections, parce que j'aime bien être un contradicteur du CSA. Alors on va parler très rapidement d'une liste qui est sans doute la plus intéressante de ces élections, à Paris et dans toute la France, c'est la liste des 100 voix. Et je peux en parler parce que cette liste est une liste qui ne pourra pas recevoir de voix. C'est pas pour ça qu'elle s'appelle la liste des 100 voix, c'est parce que c'est la liste de ceux qui n'ont pas de voix dans la politique, parce que ça fait 34 ans qu'on leur promet le droit de vote aux élections locales. Il s'agit bien sûr des étrangers extra-communautaires auxquels Mitterrand, dans son programme en 1980, avait proposé donc le droit de vote aux élections locales. Depuis, il y a eu en tout donc 4 présidents, 3 qui étaient favorables à cette mesure, et jamais, jamais aucun projet de loi, et jamais aucune mesure pour en arriver là. Alors les 100 voix, ce sont des gens qui ont décidé que justement ça commençait à bien faire, qui ont fait une liste donc à Paris et dans plusieurs villes avec des étrangers. Alors la liste a été déposée le 6 mars et le 7 elle a été retoquée par le préfet qui a dit que c'était pas possible parce qu'il y avait des étrangers dessus. Voilà. Mais alors on pourra quand même voter pour eux. Évidemment si 50% des voix allaient à la liste des 100 voix, ça aurait un sens.
Ça aurait un sens, beaucoup de gens affichent tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a des gens qui critiquent les autres en affichant ça sur des murs. On appelle ça le mur des cons, c'est une actualité aussi.
Tout à fait. Alors, il semblerait que le mur du con ait été franchi aujourd'hui dans le journal, dans le monde de la justice. Ça va faire boum, voire badaboum. Je cite le journal Le Monde d'aujourd'hui. Françoise Martre, la présidente du syndicat de la magistrature, SM, a été mise en examen...
À ne pas confondre avec Sadomaso. Hein.
Exactement. Le 17 février pour injure publique par la doyenne des juges, Sylvia Zimmermann, dans l'affaire du mur des cons. Ce panneau de photos de personnalités affichées dans le local privé de ce syndicat. Françoise Martre a été mise en examen en sa qualité présumée d'éditrice de l'affichage, indique le communiqué publié par le syndicat. Alors rappelons les faits. Atlantico.fr, journal web classé à droite, avait relayé en avril 2013 une prise de vue en caméra cachée d'un journaliste de France 3 prise dans les locaux du syndicat de la magistrature, inspiré du mur du con du canard enchaîné. On y voyait Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, Patrick Balkany, Nadine Morano ou encore Luc Ferry, mais aussi Étienne Moujotte, Patrick Lelay, Éric Zemmour, Jacques Attali, Alain Minc ou encore Brice Hortefeux.
Une bien belle brochette, voyons.
En sus des commentaires désagréables, en particulier pour ce dernier, qualifié d'homme de Vichy, globalement, potache, l'affichage indiquait « si vous voulez ajouter un con, vérifiez qu'il n'y est pas déjà ». On pense un peu à la décoration d'une salle de garde médicale, politisée et ad hominem, certes, mais le lieu était privé. Ce syndicat, dans une profession conservatrice, est classé à gauche. Toujours selon le journal Le Monde, Clément Wayle Reynald, le journaliste auteur des images filmées, avait été mis à pied par France Télévisions pour une durée de 7 jours, la direction lui reprochant d'avoir manqué de loyauté et de ne pas avoir informé qu'il en était l'auteur. Une pétition de soutien aux journalistes avait pourtant rassemblé quelque 10 000 signatures, dont celles de nombreuses personnalités de droite. À Mur, on sait tous ce que c'est. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un con ? qu'on provient du mot latin cunus, gaine, fourreau. Par analogie, c'est ainsi qu'on nomme le sexe de la femme. Selon Wikipédia, au sens figuré, le mot con est aussi un mot vulgaire, en général employé comme insulte en France et au Québec, mais dans un sens très atténué, voire amical, dans le midi de la France. Il désigne une personne stupide, naïve ou désagréable, de même que ses dérivés connard ou connasse. Con a aussi un emploi impersonnel, souvent dépréciatif, dans les expressions « jouer au con »,« bande de con ».
Quelle culture !
Ah oui. Le mot dérivé « connerie » désigne les erreurs, une bêtise ou une stupidité en général. Sachant qu'on est tous le con de quelqu'un, des juges vont devoir juger une connerie et le franchissement du mur du con. Nos concitoyens de robe vont régler leur compte, j'espère avec leur rapport avec le pouvoir, à travers un mot et presque un trou noir, même si on ne parle plus le latin. Comme s'il y avait autre chose à foutre, si je puis m'exprimer ainsi, avec des affaires, me semble-t-il, plus importantes qui sortent aujourd'hui. On considère parfois que l'on est cerné par des cons. Pour vous en assurer, utilisez donc... Pour vous en assurer, utilisez donc la méthode de Michel Audiard. Le grand homme disait, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Et d'ailleurs, il y a une de Marianne qui fait ça de façon elliptique avec une photomontage où on voit Buisson, Sarkozy, Bruni et je ne sais plus qui d'autre. Mais ça ose tout. Petit clin d'œil à Audiard.
Alors, ça ose tout et ça ose même protester quand ils sont pris la main dans le sac à bonbons.
Oui, alors évidemment, on est à la radio. Alors, quoi de mieux qu'une radio pour parler d'écoute, évidemment. Alors, il y a encore une affaire d'écoute, une de plus. Mais ce qui est croustillant, c'est que cette fois, c'est Sarkozy qui en est la victime à répétition. C'est l'arroseur arrosé, puisque l'ex-président, ex-ministre de l'Intérieur, ex-maire de Neuilly, eh bien, ce gentil monsieur qui voulait qu'on soit surveillé en permanence par des caméras et des micros, eh bien, s'est fait prendre à plusieurs reprises. Une fois par son cher conseiller d'extrême droite, Patrick Buisson, qui l'a enregistré à son insu pendant des années. Et la deuxième fois, la main dans le sac, avec un faux téléphone sous un faux nom, en téléphonant à son vrai avocat pour parler de vraie corruption, de vrais juges. Donc, très croustillant, c'est très marrant jusque-là. Ça continue à être marrant quand on voit la défense niveau école primaire de l'ancien président de la République, qui dit grosso modo, c'est pas moi, c'est lui, les vrais méchants, c'est ceux qui osent écouter des avocats. Le problème, c'est pas que l'avocat essaye de corrompre un magistrat pour le compte d'un ancien président de la République, ça c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on écoute un avocat qui lui-même a usurpé une identité pour filer un téléphone pourri à l'ancien président. Tout ça est très, très, très logique et très bon comme défense. Là où ça commence à devenir très très gonflant, c'est quand trois quarts de la presse, à la place de fouiller justement ce qu'il y a dans ses écoutes et de dire qu'il y a un moment où peut-être il faudra qu'un ancien président, ce serait pas le premier mais peut-être le seul qui soit assez jeune pour finir au trou, à la place d'insister là-dessus, eh bien on insiste sur, on fait un tollé sur le droit des avocats, le droit des journalistes, en confondant tout, en mettant le droit des journalistes et le droit des avocats à toutes les sauces, ça fait des excuses faciles et on ne parle plus du fond.
Oui. Et par exemple, en parlant du fond, on va continuer à parler un peu de politique. On va parler de Marine Le Pen. Enfin, que s'est-il passé le 20 avril 2005 par Philippe Catherine ?
21.
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non mais Marine Le Pen, non mais tu le...
Ben, voilà.
Alors ?
Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois ça.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et les membres d'ATTAC.
Et nous recevons ce soir Annick Flageolet du collectif La Santé n'est pas une marchandise. Ce nom est bien porté. Alors ce collectif défend les intérêts des gens, de tout le monde, qui a droit, on le sait, on l'espère, à la santé.
Alors peut-être je dis un petit mot d'abord du collectif « La santé n'est pas une marchandise ». Il s'est créé au début des années 2000, essentiellement pour dénoncer ce qui se tramait à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, nous travaillons surtout dans des collectifs plus larges, en particulier le collectif d'organisation qui s'appelle « Notre santé en danger ». Et ça nous permet aussi de travailler avec la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà la présentation du collectif La Santé n'est pas une marchandise.
Alors, ce qu'on avait un peu en tête, c'est qu'on parle beaucoup de la santé. On oublie finalement comment elle a été créée. On va repartir un peu des fondamentaux, parce que cette santé auquel on tient, cette sécurité sociale, elle ne date finalement que de 45.
Alors, en effet, la sécurité sociale a été d'abord pensée, voulue, rédigée avant même la libération par le Conseil national de la Résistance, alors que les militants risquaient la torture et la mort tous les jours. Ils ont même rédigé tout un programme, le programme du Conseil national de la Résistance, dont la sécurité sociale était un élément. Ça s'est concrétisé, effectivement, en octobre 45. La sécurité sociale a été créée par ordonnance grâce à un rapport de force favorable aux travailleurs. Il faut dire que pendant la guerre, les travailleurs avec leurs syndicats, à l'époque la CGT et la CFTC, avaient participé à la résistance alors que le patronat, les patrons, dans leur majorité, avaient collaboré. Donc ils étaient en position de faiblesse. Et ce rapport de force a permis la création de la sécurité sociale.
Alors cette sécurité sociale, elle a été fondée par des textes, mais aussi sur des principes qu'on peut même juger fondamentaux.
Voilà, des principes tout à fait fondamentaux. Le principe numéro un, c'est la solidarité. Chacun cotise selon ses revenus et reçoit selon ses besoins. Le principe universalité, toute la population devait être couverte, ce qui n'a jamais pu se réaliser parce que des catégories de la population n'ont pas voulu en faire partie. L'unicité, il était prévu un seul régime et une seule caisse. Alors, un seul régime, ça s'est jamais réalisé, mais une seule caisse, il y a eu une caisse unique jusqu'en 67. Le financement, ça c'est très important, le financement par le salaire socialisé. C'est-à-dire que les employeurs doivent payer une partie du salaire sous forme de cotisations sociales. Donc là, il faut bien préciser que les cotisations sociales, qu'il s'agisse de la part payée directement par le salarié et qui figure sur sa fiche de paye, ou qu'il s'agisse de la part patronale, que les patrons appellent leur charge, c'est le salaire. C'est le salaire socialisé, mais c'est toujours le salaire. Les principes fondamentaux, c'est aussi, c'était la gestion de cette sécurité sociale par les travailleurs eux-mêmes. Dans les conseils d'administration des caisses, il y avait 3/4 de représentants syndicaux élus et 1/4 de représentants patronaux élus. Nous allons voir que ça n'a pas duré, mais ça a quand même existé jusqu'en 67.
Et donc en 67, premier gros changement, De Gaulle est au pouvoir et tout change.
Voilà. Alors, il va déjà séparer la caisse unique en 3 caisses, famille, maladie, retraite. Et surtout, il va supprimer la majorité ouvrière dans les caisses et instituer la parité. Il va supprimer les élections, qui seront rétablies en 83. Mais là, il les supprime. Donc c'est quand même déjà des changements très importants. Il augmente aussi le ticket modérateur de 20 à 30%.
Donc là, on voit une évolution complète dans la démocratie, et même dans les années 80, là, il y a une perte progressive de démocratie au sein de la direction des caisses, et l'État prend de plus en plus le poids dans les décisions.
Voilà. Et ça culmine, si on peut dire, avec les ordonnances de Juppé, en 95, qui mettent carrément le budget de la sécurité sociale. Désormais, c'est le Parlement qui vote le budget de la sécurité sociale. Et tous les ans, c'est ce qu'on appelle le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est voté tous les ans par le Parlement. Donc, ce n'est plus les représentants des travailleurs qui gèrent la sécu dans les caisses. C'est essentiellement le Parlement et une mainmise de l'État.
Et cette mainmise se concrétise rapidement parce que finalement, des décisions sont prises que n'auraient certainement pas pris des gens qui veulent défendre leur santé. C'est plutôt des gestionnaires à l'Assemblée nationale qui oublient certains aspects réels de la santé.
Oui. Alors, déjà, il y a eu la création du forfait hospitalier en avril 83, et à l'époque, il était à 20 francs. Aujourd'hui, il est à 18 euros, vous voyez la différence. Mais ça veut quand même dire que quand on est hospitalisé pour une opération, ce n'est plus la prise en charge à 100% puisqu'il faut payer le forfait hospitalier. Sauf les gens qui ont une bonne mutuelle pour le payer. Alors, un quatrième point qui est quand même important, c'est sous le gouvernement Rocard, la création de la fameuse CSG, le 1er février 91, qui était à l'époque à 1,1% des revenus et qui est aujourd'hui à 7,50%. Si bien, c'est là que c'est important, le financement de la sécurité sociale aujourd'hui, c'est cotisation sur les salaires 55%, CSG 20%, impôts et taxes 10%. Donc vous voyez déjà que le financement sur les salaires est déjà très très fortement réduit. Alors ensuite, je ne vais pas trop détailler, mais c'est quand même important, il y a eu la loi d'Oust-Blazy en 2004 qui a fait rentrer les complémentaires santé dans la gestion de l'assurance maladie. Et ça, c'est quand même grave. Et puis qui a institué le fameux 1 euro sur les consultations, sur les actes de biologie et radio, avec une limite quand même de 50 euros par an. Ensuite, il y a eu, avec Sarkozy, sitôt après qu'il a été élu président, la création des franchises. Pendant sa campagne, d'ailleurs, Sarkozy avait annoncé des franchises énormes, assez terrifiantes. Il y a eu une telle campagne de protestation que ça a quand même été réduit. Mais c'est ce que tout le monde connaît bien. 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes par acte paramédical, 2 euros par trajet sanitaire. Tout ça, ça explique les moins 1, les moins 50, les moins 0,50 que vous trouvez sur les feuilles de remboursement de la Sécu.
On peut peut-être en profiter pour rappeler que le numéro 1 de la mutualité française privée est le frère de l'ancien président, qui s'appelle oui. Sarkozy aussi, et qu'une partie des franchises était faite pour alimenter justement les besoins en ressources des mutuelles.
Tout à fait.
Qui pouvaient augmenter leurs cotisations.
D'ailleurs, il faut dire que la mutualité française a soutenu la loi d'Oust-Blazy et a soutenu également, la mutualité française a soutenu toutes les réformes. Elle défend pas la sécurité sociale. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait peut-être maintenant, c'est parler un petit peu du fameux déficit. Le déficit de la sécurité sociale, c'est quoi ce déficit? Alors d'abord, je vais vous donner quelques chiffres. Le déficit du régime général, c'est 23,9 milliards d'euros. C'est très impressionnant comme ça. Mais les recettes de ce même régime général, c'est 370 milliards d'euros, ce qui relativise quand même. La branche maladie de la sécurité sociale a un déficit égal à 11,6 milliards. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la part des dépenses dans le produit intérieur brut, chiffre de 2010, dans les différents pays. En France, c'est 11,9, qui est un chiffre pas excessif. Aux États-Unis, c'est 17,9, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. En Suède, c'est 10. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Ben, aux États-Unis, là où la santé est la plus privatisée, la moins socialisée, c'est là que les dépenses de santé sont les plus élevées, totalement inégalitaires évidemment. En Suède, au contraire, c'est très socialisé, ils ont moins de dépenses de santé. Et on peut en conclure que plus la santé est socialisée, mieux les dépenses sont contenues.
Et c'est même une évolution globale, c'est que finalement tout le pouvoir politique au nom de ce déficit veut faire évoluer les dépenses de santé de la caisse de sécurité sociale qui est globalisée et qui n'est pas de l'argent qui circule sur le marché financier au profit de ces mutuelles privées comme aux États-Unis, et on voit finalement que ça aggraverait le déficit de courir vers ces caisses privatisées plutôt que respecter notre santé publique basée sur une sécurité sociale socialisée.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, le patronat et les gouvernements qui les soutiennent et l'Union européenne ne sont pas contre l'augmentation des dépenses de santé. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit privatisé, que ce soit source de profit. Et ils veulent pas que ce soit service public. C'est ça le fond du problème. Alors maintenant, pour ce fameux déficit, ce soi-disant déficit, le problème, c'est pas tellement qu'il y a trop de dépenses, c'est surtout qu'il y a un manque de recettes. Et pourquoi ce manque de recettes? D'abord à cause du poids du chômage et de la stagnation des salaires. Un point de plus sur la masse salariale rapporte 2 milliards à la sécurité sociale. 100 000 chômeurs qui retrouvent du travail, c'est 2,5 milliards de plus pour la Sécu. Par ailleurs, il y a le fameux problème des exonérations de cotisations patronales, qui est un véritable scandale. Ces exonérations de cotisations patronales ont augmenté de 55% en 9 ans. Elles représentent 66 milliards par an sur l'ensemble des prélèvements sociaux, dont 30 milliards pour la sécurité sociale dans sa totalité, 30 milliards par an, qui sont compensés à 90% par l'État. Et là, ce qu'il faut analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patrons payent de moins en moins pour la Sécu et que c'est davantage l'État par la fiscalité. Or, la fiscalité, c'est nous, et surtout, on sait qu'avec le régime fiscal injuste que nous connaissons, c'est essentiellement les salariés qui payent les impôts, l'impôt sur le revenu, à, je crois, 99%. Donc, ça veut dire que c'est reporté sur les ménages.
Donc, c'est la double peine.
C'est la double peine, voilà. Voilà. Alors, ce qu'on peut peut-être dire aussi, ça c'est vraiment très important, parce que les patrons se plaignent toujours donc de leurs charges, alors qu'il s'agit encore une fois du salaire, et ils disent, ils se plaignent du coût du travail. D'après eux, le coût du travail empêcherait les entreprises françaises d'être compétitives et d'avoir des débouchés sur le marché européen, mondial, etc. Mais c'est pas le coût du travail qui pèse sur les entreprises, c'est le coût du capital. Alors là, il y a des chiffres. En 2011, les dividendes et intérêts versés par les entreprises se sont élevés à 309 milliards. 309 milliards de dividendes et d'intérêts pour les actionnaires. Et en même temps, les entreprises ont versé 145 milliards de cotisations sociales. Vous voyez la différence?
En rappelant que le fameux déficit est, lui, à moins de 24 milliards.
Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, les prétextes de crise, de compétitivité, sont démentis par les faits. Alors là, il y a encore des chiffres, mais je vais peut-être pas quand même trop vous envahir.
Oui, l'esprit, c'est de dire que les entreprises font de plus en plus de bénéfices aujourd'hui. Et quand on parle d'une crise, on en a souvent parlé dans l'émission, qui s'aggrave, c'est toujours pour détruire le service public. C'est jamais pour dire à ces entreprises de moins payer leurs actionnaires.
Voilà. Voilà. Exactement.
Peut-être revenir sur la notion de salaire qui n'est pas une charge. C'est-à-dire
voilà.
Qu'il y a une confusion dans la presse aux ordres du pouvoir et dans le pouvoir pour dire qu'il y a des charges. Or, une partie du salaire est versée sous forme de salaire aux gens directement. L'autre était prévue pour être versée par les entreprises à la sécurité sociale. Mais ce n'est pas une charge, c'est une autre partie du salaire.
Absolument. D'ailleurs, il faut préciser aussi qu'au niveau de l'entreprise, là où se crée la richesse par le travail, parce que c'est le travail qui crée la richesse, et au niveau de l'entreprise, quand il y a une augmentation de la richesse créée, il n'y a pas de mystère. Ça va, partie aux actionnaires, partie aux salariés. Bon, ce qui ne va pas aux actionnaires va aux salariés, ce qui ne va pas aux salariés va aux actionnaires. Donc, le salaire, effectivement, c'est le salaire direct que le travailleur touche avec sa fiche de paye, et c'est les cotisations, le salaire socialisé que l'entreprise verse directement à la sécurité sociale pour la solidarité.
Et oui, car nous sommes tous un peu malades de ce système, et d'ailleurs on va écouter Malade d'Ocus Pocus. One,
two, three. Okay. Pour tous les malades de hip-hop. Voilà.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Annick Flageolet de l'association, enfin du collectif, pardon, La Santé n'est pas une marchandise. Et nous avons parlé dans une première partie de l'historique de la Sécu jusqu'à nos jours, et nous arrivons maintenant à l'actualité plus récente en parlant de la loi de finances qui a été votée fin 2013.
Alors, cette loi de finances, le gouvernement a imposé 2,4% d'évolution des dépenses d'assurance maladie, alors qu'il aurait fallu au moins 4% simplement pour maintenir l'existant. C'est dire que la situation est assez catastrophique. Et voilà que nous arrive un coup de massue, le pacte de responsabilité de François Hollande. Ce pacte de responsabilité, vous le savez, exonère les patrons de 30 milliards de cotisations pour la branche famille. Les 30 milliards de cotisations famille, les patrons en sont donc libérés. Et c'est catastrophique pour la santé à double titre. D'abord, c'est à nouveau des exonérations de cotisations qui s'ajoutent à celles déjà existantes et qui creusent le fameux déficit de la Sécu. C'est une évolution qui se confirme, à savoir de moins en moins de financement par les cotisations sociales et une Sécu qui se réduit de plus en plus, qui prend de moins en moins en charge les soins. Et en plus, il y a 50 milliards d'économies à faire sur les services publics et les dépenses sociales. Et ces 50 milliards, eh ben, qu'est-ce que ça va être sur les hôpitaux? Parce que les hôpitaux sont particulièrement visés. Les hôpitaux sont déjà en asphyxie depuis au moins une dizaine d'années, puisque tous les ans, les dépenses autorisées diminuent régulièrement. Et on se demande comment ça va se passer.
Avec des choses tout à fait concrètes. Par exemple, sur Paris, la fermeture de l'Hôtel Dieu, la prévision de fermeture de Bichat, etc.
On en reparlera tout à l'heure. Par contre, voilà, on peut citer une petite anecdote tirée de ce grand journal des Échos il y a quelques semaines.
Oui. Ce grand journal des Échos dit que, alors que les hôpitaux sont déjà asphyxiés par 10 années d'économie aveugle, c'est pas textuellement le texte de l'article, hein, j'ai résumé, le gouvernement s'apprêterait à limiter les dépenses à 2% par an entre 2015 et 2017 et même à 1,75%. Alors, 1,75% d'évolution des dépenses. Déjà, les 2,4%, c'était beaucoup trop bas. C'est assez terrifiant.
Et on peut mettre en parallèle une petite nouvelle de la semaine en Allemagne qui promet que le budget fédéral sera à l'équilibre pour la première fois depuis une bonne cinquantaine d'années, pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait des coupes budgétaires énormes, et entre autres dans la caisse de sécurité sociale allemande, qui va être privée, de 5 milliards sur les 15 que l'État fédéral devait reverser aux services de santé. Notre beau gouvernement socialiste fait bien exactement la même politique que le parti de droite d'Angela Merkel. Alors, si nous voulons tous protester contre ça, mardi 18 mars, il y a grève et manif intersyndicale à rejoindre et à amplifier.
Voilà. Grève et manif à l'appel de 4 syndicats, Force ouvrière, la FSU, Sud Santé Solidaire et la CGT. Et manifestation, c'est à 13h15 à Montparnasse, si je me souviens bien.
À côté du cimetière, c'est symbolique.
Non, mais on s'en va du cimetière, on sort du cimetière pour aller vers la vie, voyons. Mais la vie, c'est aussi la santé. Et justement, on va essayer de parler un peu plus concrètement, parce que qu'en est-il aujourd'hui de l'accès aux soins et à la prévention qui était censé, depuis 45, être pour tous?
Eh bien, c'est très dégradé. Un Français sur trois a renoncé aux soins en 2013. J'ai un peu de mal à me relire. Voilà, un Français sur trois a renoncé à des soins médicaux pour raisons financières en 2013. Les dépassements d'honoraires sont aujourd'hui officialisés, on va en dire un mot. Les franchises, les forfaits, les déremboursements sont toujours là. Alors les déremboursements, il s'agit surtout des médicaments. Là, on n'en a pas parlé parce que là, il faudrait une séance entière pour en parler. C'est tellement énorme, le chapitre des médicaments. Ce qu'on peut peut-être dire simplement très brièvement, c'est que quand un médicament est prescrit, ils devraient toujours être remboursés ou pris en charge, s'il y a le tiers payant. Mais par contre, il y a beaucoup de médicaments qui ne devraient pas être sur le marché ou ne plus être sur le marché, soit parce qu'ils sont inefficaces, soit parce qu'ils sont dangereux. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup à dire.
Ou parce qu'ils coûtent 5 fois le prix normal.
Oui. Il y a aussi le problème des génériques. Enfin bon, mais alors là, c'est faudrait vraiment une séance spéciale là-dessus. Bon, alors voyons un petit peu ce qu'il en est des complémentaires santé. Les complémentaires santé sont là normalement pour prendre en charge ce que la Sécu ne prend pas en charge. Mais il faut savoir que depuis le code de la mutualité de 2001, il n'y a plus de différence entre les mutuelles et les assurances, parce que les mutuelles sont soumises à la concurrence comme les assurances. Elles sont donc obligées d'adopter les mêmes pratiques que les assurances, sinon elles coulent. Bon, les mêmes pratiques, il y a un exemple, elles pratiquent pratiquement toutes des prix, des adhésions, enfin des cotisations en fonction de l'âge. Ce qui n'existe pas à la Sécurité sociale, pas encore tout au moins. Et j'espère que ça n'existera jamais. Bon, donc mutuelle et assurance, de moins en moins de différence. Or les assurances, on sait que ce sont des requins quand même, hein, pour pas l'oublier. Alors, je voudrais parler aussi un petit peu de l'accord national interprofessionnel qui a été signé le 11 janvier 2013 par 3 syndicats et rejeté par les autres syndicats. Cet accord comprend beaucoup de choses, mais en particulier il commence par instituer la généralisation de la couverture santé complémentaire dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que toutes les entreprises vont être obligées de mettre en place une couverture santé d'ici le 1er janvier 2016. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui ont déjà une mutuelle d'entreprise ou une assurance d'entreprise. Mais là, ça devra être généralisé. Donc, a priori, ça peut paraître bien. La mutualité française, justement, dit généralement il y a des personnes qui n'ont pas de mutuelle. Donc, le slogan, c'est « une mutuelle pour tous ». Eh bien, nous disons non. Le slogan, c'est pas une mutuelle pour tous. Le slogan, c'est la sécurité sociale pour tous, avec prise en charge des soins à 100%. On va en dire un mot. Mais là, dans l'immédiat, la mutuelle obligatoire, c'est pas bon du tout, essentiellement, parce que c'est les assurances qui vont s'engouffrer là-dedans, c'est évident, c'est sûr. Ça va commencer à se mettre en place en juillet, et c'est une aubaine pour les assurances.
Et là où ça fait très mal que ce soit un gouvernement socialiste, c'est l'un des systèmes qui avait été utilisé par Nixon pour casser l'État-providence aux États-Unis. Justement, la mutualisation, ça a permis de mettre par terre l'État-providence qui a disparu complètement aux États-Unis.
Parce que ce qui va se passer, effectivement, c'est que ça va être de plus en plus les complémentaires santé, à savoir essentiellement les assurances ou les mutuelles qui leur ressemblent, et de moins en moins la sécu. Et on risque d'en arriver à une sécu minimum pour les très pauvres. Et puis tous les autres devront payer une assurance ou une mutuelle. Et entre parenthèses, les assurances et mutuelles sont de plus en plus chères. Et les assurances, si elles gagnent du terrain, enfin, je sais qu'aux États-Unis, les assurances sont extrêmement chères. Et il y a d'ailleurs des Américains qui ne peuvent pas se payer une assurance parce que c'est trop cher.
Donc aujourd'hui a été créée en France la CMU et puis maintenant l'AME qui permet d'avoir un complémentaire pour les gens qui n'ont entre autres pas de revenus ou des très faibles revenus. C'est un système qui marche quand même, mais oui. Qui est plafonné.
Alors il est plafonné à 716 € par mois pour une personne seule. C'est-à-dire que si vous gagnez plus de 716 €, vous n'avez pas droit à la CMU-C ni à l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État, c'est le régime des étrangers sans papier. Malheureusement, la CMU, couverture maladie universelle, et CMU-C complémentaire, c'est pas pour tous les étrangers. C'est les Français, bien sûr, mais c'est aussi les étrangers en situation régulière. Ils n'ont pas inclus, quand ça a été créé en 2000 avec Jospin, ils n'ont pas inclus les étrangers sans papier. Donc il y a eu un dispositif spécial pour les étrangers sans papier, l'aide médicale d'État. Et le plafond est le même pour les deux dispositifs. Et il arrive très souvent d'ailleurs qu'un bénéficiaire de la CMU, dès qu'il gagne un petit peu quelque chose, dès que sa situation s'améliore, hop, il est exclu de la CMU. Et à ce moment-là, il est généralement trop pauvre pour se payer une mutuelle, il n'est plus assez pauvre pour avoir droit à la CMU ou à l'AME. Donc c'est quand même des systèmes très imparfaits. Ceci dit, nous les défendons, on les a défendus, parce que depuis le début des années 2000, c'est régulièrement que les gouvernements veulent le mettre en cause, gouvernement de droite en particulier, surtout l'AME, mais également la CMU, et on les défend, parce que c'est le seul moyen pour des gens qui n'ont rien.
Et à l'opposé, ceux qui se défendent bien mieux que les sans voix et sans argent et en grande difficulté, ce sont ceux qui ont des vrais dépassements d'honoraires, c'est-à-dire les cliniciens, les spécialistes de notre santé.
Voilà. Et alors là, ce qui est terriblement décevant, c'est que le gouvernement socialiste, avec Marisol Touraine, a patronné un accord qui a été signé le 24 octobre 2012, qui prétend contrôler les dépassements d'honoraires, mais qui en fait les officialise, les étend même. Alors, sans rentrer trop dans les détails, je vais vous donner quand même un exemple concret. Les médecins qui peuvent dépasser les tarifs de sécurité sociale, ils sont ce qu'on appelle dans le secteur 2. Alors, ce sont très souvent des spécialistes, mais pas toujours, ça peut être aussi des généralistes. Bon, un spécialiste de secteur 2, le tarif sécu, c'est 28 euros. Et avec cet accord d'octobre 2012, il peut demander jusqu'à 70 euros, c'est-à-dire 2,5 fois le tarif sécu. Alors bon, c'est un contrôle très large quand même. Hein. Et alors en plus, il peut aussi signer un contrat d'accès aux soins. Alors là, le contrat d'accès aux soins, il faut quand même que 30% de ces patients soient au tarif sécu. Mais il a une contrepartie. C'est-à-dire, en échange de ces 30% au tarif sécu, eh bien, il va pouvoir, il aura une prise en charge partielle de ses cotisations sociales. Donc, il va pouvoir pratiquer des dépassements d'honoraires, à condition de faire 30% de patients en tarif sécu, mais il lui en reste quand même 70% pour lesquels il peut demander les 70 euros, hein, au lieu de 28. Et puis, il a en plus un avantage sur ses cotisations sociales. Donc, il demande le beurre et l'argent du beurre. Et ils l'ont.
Alors, on a parlé tout à l'heure du frère de Sarkozy. Il faut peut-être se rappeler que le frère de Marisol Touraine est un grand professeur en médecine et qui pratique les dépassements d'honoraires.
Et les dépassements d'honoraires croulent parfois les hôpitaux et les maternités. On va peut-être dire un mot des hôpitaux et des fermetures des maternités, parce que le temps passe.
Oui.
Et des chiffres globaux assez effrayants. Par exemple, de 1998 à 2008, près de 300 services de chirurgie ont fermé en France.
Voilà.
C'est d'une source bien officielle. Hein.
C'est DGOS, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Offre de Soins au ministère de la Santé.
Et donc 14 maternités fermées tous les ans.
Oui.
Alors qu'il y a un baby boom.
Alors qu'on a un recrue de naissance.
Voilà.
Et ça entraîne aussi, on en a déjà parlé la semaine dernière, la fermeture des centres pour l'IVG.
Voilà.
Ce qui pose de gros problèmes pour l'accès à ce droit à l'avortement.
Voilà. Le rythme actuel est d'une fermeture annuelle de 4 maternités. C'est assez effrayant. Alors, voilà. Alors, je peux vous citer rapidement quelques exemples, mais bon, on n'a pas beaucoup le temps de s'étendre quand même. En Ile-de-France, il y a à Paris, il y a déjà des hôpitaux confirmés, la Hennec, Brousset, Fernand Vidal, Saint-Michel, les maternités de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Antoine, avec le centre CIVG de Saint-Antoine, les services des maladies infectieuses à Saint-Joseph. Alors là, j'ai quelque chose que j'ai pas expliqué, parce que dans ce que j'ai cité là, il y a des établissements publics, mais il y a aussi des établissements privés à but non lucratif. C'est le cas de Saint-Joseph. Et c'était le cas de Saint-Michel. D'ailleurs, c'est des établissements qui font partie du service public hospitalier.
Et c'est des choses qu'on retrouve à travers tout Paris, avec surtout l'exemple de l'Hôtel-Dieu qui est en plein démantèlement.
Alors oui.
Mais qu'on retrouve aussi à travers toute la France.
Oui.
Briançon, Concarneau, Sarlat, et des maternités dans les petites villes, Vire, Valeras, ou même dans des îles comme Marie-Galante. On a vraiment des endroits où ils vont être des déserts pour les services de santé.
Tout à fait. Marie-Galante, c'est une île, et ils n'ont plus de maternité, donc ils n'ont que l'hélicoptère comme solution. Alors bon, c'est pas joyeux quand même.
Enfin, une île pour perdre les os.
Oui. ni pour perdre les os.
Et justement, pour voir comment se passer de dentiste, c'est une spéciale dédicace à Magali qui n'est pas là, vous pouvez faire appel à votre plombier, le blues du dentiste, Boris Vian, Henri Salvador.
Ce matin-là, le blues du dentiste dans le noir. Maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pipi? Alors maintenant, me lève, je peux.
Bonsoir, 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous recevons Annick Flageolet du collectif La Santé n'est pas une marchandise. Nous avons refait l'historique de la Sécu, nous avons vu à quel point elle a été progressivement détruite et qui est en cours de destruction assez forte. Et nous allons maintenant peut-être faire quand même les points de ce que l'on aimerait voir arriver pour la santé. Aujourd'hui, c'est une liste de « il faut ». Alors, il faut l'interdiction des dépassements d'honoraires. On vient d'en parler.
Absolument. Il faut les interdire carrément. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il faut que la Sécurité sociale prenne en charge, et je dis prendre en charge et pas rembourser, parce qu'il faut que le tiers payant se généralise. La non-avance des frais. Donc, la Sécurité sociale, prise en charge des soins et de la prévention à 100% pour tous. Et c'est possible, c'est tout à fait possible, parce que ça paraît comme ça énorme. Mais si, c'est parfaitement possible. Quand on sait, alors je vais reprendre l'explication sur ce qui se passe au niveau de l'entreprise. C'est pas pour rien, quand la Sécu a été créée, il a été décidé que ce serait des cotisations sociales, c'est-à-dire que les prélèvements se font là où la richesse est créée, au niveau de l'entreprise. Bon, or, depuis une trentaine d'années, l'augmentation de richesse créée va de plus en plus aux actionnaires, au détriment des salariés. Et ça représente 186 milliards d'euros par an. Rappelez-vous que le déficit global du régime général de sécurité sociale, c'est même pas 24 milliards. Vous voyez la différence. Donc, si on récupère ces 186 milliards d'euros par an, eh ben, on peut faire énormément de choses.
Et justement, développer les centres de santé.
Ah, voilà.
Permettre que la couverture qui était mise à mal disparaisse complètement.
Voilà.
Alors justement, si vous voulez rejoindre ce combat, il y a actuellement une campagne démarrée le 7 février et qui va durer jusqu'aux européennes, qui est un manifeste du réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection sociale.
Voilà. Et ce réseau regroupe un grand nombre de pays de l'Union européenne, en particulier l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, la Grèce. Il y en a d'autres, mais c'est peut-être les plus actifs. Voilà. Donc, parce que vraiment, cette destruction des services publics de santé existe dans toute l'Europe. Et ça correspond à une volonté de la Commission européenne, une volonté politique. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus une incompétence, c'est une volonté politique, je dirais même de la Troïka, le Fonds monétaire international, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, qui se lie contre la Grèce en particulier, mais finalement contre nous aussi, contre tous les pays européens, et qui veulent la destruction des services publics de santé de façon à ce que ce soit le privé qui prenne la place et que ce soit vraiment la santé soit un objet de commerce, soit une marchandise. Voilà. Donc pour la mobilisation, je crois qu'il est très très important d'avoir conscience de ça. C'est-à-dire, on ne se bat pas contre une malchance ou contre un hasard. On se bat contre une volonté politique qui est fondamentalement contraire à nos options, à nos choix essentiels. Et c'est possible en même temps, c'est possible financièrement parlant, c'est possible de défendre les services publics et notamment les services publics de santé.
Donc c'est la conclusion, essayer de combattre ces lois qui nous n'avons pas votées, et citer typiquement à la Commission européenne ou à l'Assemblée européenne, où parfois des lois passent bien en dehors de ce que pense l'opinion publique. Par exemple, Gaëlle va nous parler rapidement d'une loi qui n'a pas été votée sur l'égalité homme-femme.
C'est l'emploi des femmes vu par l'Union européenne. La stratégie européenne pour l'emploi affiche un objectif d'augmentation du taux d'activité des femmes. On peut y voir a priori un objectif progressiste puisque historiquement l'émancipation de la femme passe par l'accès à un travail hors du foyer. Mais on sait aussi que l'accès au travail salarié n'a pas été une condition suffisante, loin de là, pour atteindre l'égalité homme-femme. Pendant la guerre 14-18, par exemple, qui marque le début de l'utilisation massive de main-d'œuvre féminine, les femmes ont été systématiquement embauchées avec un quart de salaire en moins. Et d'ailleurs, ce quart en moins existe toujours aujourd'hui. En moyenne, les femmes gagnent 27% de moins que les hommes. Car même si on respecte le principe à travail égal, salaire égal, d'autres facteurs interviennent. En particulier, 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, et c'est pas toujours un choix. Et il y a des discriminations plus subtiles, par exemple à niveau de qualification égal, des fonctions qui sont entre guillemets typiquement féminines, typiquement, donc le soin, l'aide, le social, sont en général moins rémunérées que les fonctions entre guillemets typiquement masculines. Mais revenons sur cet objectif de l'Union européenne d'augmenter le taux d'activité des femmes. Cet objectif est apparu à la fin des années 90 dans la stratégie européenne pour l'emploi. Au sommet de Lisbonne, en 2000, on a défini pour la première fois des objectifs quantitatifs de taux d'emploi différenciés par genre, à savoir 60% pour les femmes, sachant qu'à l'époque, il était de seulement 52%. Le taux d'emploi, c'est le pourcentage de personnes qui ont un emploi parmi les personnes entre 20 et 64 ans. Alors le taux d'emploi des femmes a effectivement augmenté. Entre 2001 et 2011, il est passé de 52,4% à 58,2% dans la zone euro, alors que parallèlement, il diminuait pour les hommes, passant de 71,8% à 70,3%. Mais il est difficile de dire si ce phénomène provient des politiques de l'Union européenne, puisque ce mouvement était déjà bien engagé depuis les années 60. Et il faut s'interroger sur le choix de cet indicateur qu'est le taux d'emploi. On aurait pu prendre le taux de chômage. Le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs en recherche d'emploi sur le nombre d'actifs, le nombre d'actifs étant à la fois ceux qui ont un emploi et les chômeurs. L'avantage du taux d'emploi comme mesure, c'est que contrairement au taux de chômage, il n'est pas biaisé par des situations de chômage déguisées en inactivité. Quand une femme retourne au foyer car elle ne trouve plus de boulot ou parce qu'elle n'a pas de garde pour ses enfants, elle disparaît des chiffres de chômage sans que la situation soit meilleure. Un inconvénient du taux d'emploi, c'est qu'il mélange les chômeurs, ceux qui ne trouvent pas de travail, et les inactifs, ceux qui choisissent de ne pas travailler. Or, la manière de faire des statistiques n'est jamais neutre idéologiquement. Mélanger des chômeurs et des inactifs, ça correspond à l'idée des néolibéraux selon laquelle un chômeur, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler parce que le chômage est plus confortable. D'autre part, alors que le taux de chômage comporte plusieurs catégories qui permettent notamment de comptabiliser le temps partiel subi, le taux d'emploi comptabilise les temps partiels comme des temps complets. Donc le taux d'emploi, c'est un indicateur discutable. Et surtout, l'objectif d'accroître le taux d'emploi des femmes est loin d'être en soi émancipateur. Car il y a une réalité qu'il ne montre pas, ce sont les conditions de travail dégradées, à savoir les temps partiels subis, la division sexuée du travail, et le manque de solutions de garde pour les enfants. Or, non seulement la politique économique européenne ne résout pas ces problèmes, mais en plus, elle les accroît. Elle les accroît notamment en accroissant la flexibilité, donc avec des durées de travail et des salaires adaptables aux besoins de l'employeur. Elle les accroît en durcissant les conditions d'accès aux indemnités de chômage et les conditions d'accès à la retraite. Et elle les accroît également en des mesures soi-disant d'égalité homme-femme, comme la suppression de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Bref, la stratégie européenne de l'emploi pour les femmes, c'est pas seulement plus d'emplois, ce sont surtout des petits boulots mal payés, de nuit, à temps partiel, ultra flexibles, sans solution de garde pour les enfants, et avec une retraite à 70 ans.
Ça fait peur. On ne répétera pas si vous n'avez pas entendu ce que vient de dire Jean-Marc. Par contre, écoutez que ce week-end, à partir du samedi 15 mars, à peu près partout en France, il y aura une campagne qui s'appelle les requins d'attaque. Malgré la grise, les banques et multinationales se comportent comme des super prédateurs. Prenez le kit anti-requin qui permet de diffuser autour de vous et de traquer autour de vous les multinationales prédatrices que sont la BNP, BNP Paribas, Société Générale, Unilever et d'autres. Bref, participez à ce mouvement. Renseignements sur tout le site d'attaque. Ce qui termine l'émission. Et nous sommes en retard, donc je remercie Annick Flageolet. Nous avions aussi Jean-Marc, Boris, Gaël et Claude à la technique. Et nous écoutons pour terminer « U grande amor » de Getz, Gilberto et Jobim.